Allô Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Immo pour ce tout nouveau numéro de Allô Radio Immo. Nos experts du jour sont Norbert Franchon, bonjour Norbert,
bonjour,
président du directoire du groupe Gambetta, et Arnaud Romanet-Perroux, bonjour, Arnaud,
Kenda,
fondateur d'Upstone et professeur de finance immobilière à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais pas que, dans d'autres écoles aussi.
Exactement.
Je crois. Vous pouvez nous en citer quelques-unes.
À l'ESCP, à l'ESTP et au CNAM dans le module ICH.
Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions de nos auditeurs. Norbert Franchon, vous allez surtout nous parler du marché immobilier et des interrogations au sujet des diverses opportunités d'achat du moment, parce que les choses ont peut-être un petit peu évolué. Et avec vous, Arnaud, nous évoquerons le crowdfunding et les avantages à faire ce type d'investissement, si vous êtes d'accord. Alors, juste avant, petite présentation peut-être de vos sociétés respectives. On va commencer par Upstone. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Upstone, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets immobiliers. On finance des opérations de promotion, des opérations de marchand de biens. Donc, on a des retours sur investissement qui sont relativement courts, de l'ordre de 6 à 24 mois, avec des performances qui sont entre 8 et 15 %. Et le ticket d'entrée est à 100 euros.
Vous nous rappelez ce que c'est que le crowdfunding ?
Alors, c'est le financement d'opérations de rénovation, si on est sur des opérations de marchand de biens. Donc, il y a une acquisition d'un bien qui est rénové, puis revendu ou à la découpe pour rénover, revendu, rénové. Et on peut financer aussi des projets de promotion, donc plutôt sur la phase de construction. On va compléter les fonds propres du promoteur. On est aussi sur des opérations qui sont de l'ordre de 12 à 24 mois.
Et le crowdfunding est disponible, en tout cas, pour toutes les bourses, hein, ou pas ? Est-ce qu'on peut faire du crowdfunding à partir de combien ?
Chez nous, à partir de 100 euros.
Ah oui, c'est plutôt avantageux.
On est volontairement accessible pour que les gens puissent essayer avec des petits quais relativement raisonnables.
Très bien. On a plein de questions pour vous, en tout cas, concernant le crowdfunding. Le groupe Gambetta, un mot peut-être sur ce grand groupe immobilier ?
Grand, vieux surtout.
Mais c'est gentil. On peut être grand et vieux. Hein.
Exactement. Une société qui a bientôt 100 ans, promoteur immobilier. Donc, on construit des logements neufs en Ile-de-France, à Nice, à Marseille, à Tours, à Nantes, à bientôt à Lyon et à Toulouse. 150 collaborateurs, 1000 logements par an, avec deux particularités. C'est qu'on a aussi du locatif social dans la société, 5000 logements au patrimoine.
Oui.
Et puis, on appartient à nos salariés. Enfin, mes salariés sont mes actionnaires.
Et surtout, le groupe Gambetta est membre de la Fédération des promoteurs immobiliers. Hein, c'est important de le dire.
On est membre de plein de fédérations, y compris celle de la FPI, avec un grand plaisir, avec de nouveaux présidents.
Très bien. Alors Arnaud, je sais qu'on a expliqué justement ce que c'était que le crowdfunding, mais on appelle ça aussi la pierre papier ?
Alors c'est une catégorie de l'immobilier papier.
Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, l'immobilier papier, le problème de l'immobilier, c'est que c'est souvent des valorisations qui sont assez élevées quand on achète un appartement, quand on veut acheter un immeuble, quand on veut financer un projet, c'est des montants qui sont vite colossaux. Et il y a quelques années, aux alentours des années 70, on a inventé notamment les SCPI qui permettent de transformer de l'immobilier en société, donc de détenir des parts de société. Alors, c'est pour ça qu'on fait référence à l'immobilier papier. Donc ça permet de découper un ensemble d'actifs ou un actif en petits morceaux et donc de le rendre accessible à un plus grand nombre. Donc on a une communauté d'investisseurs qui peuvent investir dans des parts d'une société qui détient l'immobilier, et donc c'est en ça qu'on est sur l'immobilier papier.
Très bien.
Et donc le crowdfunding, c'est une sous-catégorie, on va dire.
C'est une nouvelle forme.
Voilà, c'est une forme plus récente.
Très bien. Voilà. Vous connaissez cette forme, vous, Norbert ?
Non, nous on travaille en SCCV, c'est-à-dire dans des sociétés qui portent les projets immobiliers, et on vend en VFA.
Oui.
Et donc on vend à des personnes, voilà, c'est du neuf, on vend à des personnes physiques qui achètent pour habiter ou pour investir. On vend à des personnes morales, mais c'est des SCI. Et donc c'est le ticket d'entrée, il est à 200 000 euros. Mmh. Enfin, on achète un deux pièces.
Oui, c'est pas 100 euros du côté chez vous. Hein.
C'est pas le. Et puis quand on achète pour investir dans un appartement, c'est un cycle de au moins 9 ans, si ce n'est plus. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes modes de financement, avec des rentabilités beaucoup moindres, mais avec des plus-values potentielles à sortie. Donc, je pense que c'est totalement complémentaire.
Alors, on a beaucoup de nos auditeurs qui s'inquiètent surtout sur les opportunités immobilières, ou pas, de l'après-crise ou l'après-Covid, puisqu'on est encore dedans, malheureusement. Comment se porte le marché, Norbert ?
Bizarrement.
J'aime beaucoup cette réponse.
le premier trimestre est super mauvais. C'est-à-dire que c'est le troisième plus mauvais trimestre depuis le début du XXIe siècle. Mais c'est un peu traditionnel par rapport à un trimestre qui suit une élection municipale. C'était pareil en 2009, c'était pareil en 2015, et 2021 n'échappe pas à la règle.
Oui.
Le premier semestre a l'air de redresser la barre, et donc on est à l'air de revenir à des rythmes un peu plus normaux, un peu plus dans la norme depuis 10 ans. Et par contre, on a un marché qui s'effondre dans les métropoles. Mmh. Et c'est le marché qui se concentre dans les métropoles, le marché de l'immobilier neuf. Pour vous donner deux exemples, Nantes, on est à moins 50% quand on compare le premier semestre 2021 au premier semestre 2019. Lyon, on est à moins 40%.
Ah oui.
Et ce qui fait que les prix explosent. Parce que si on fait les mêmes comparaisons sur les mêmes semestres, Nantes, c'est plus 20% en termes de prix, et Lyon, c'est plus 16%. Mmh. Ce qui fait que les investisseurs en crowdfunding n'ont pas forcément fait de mauvaises affaires quand ils ont investi sur des opérations
dans ces métropoles. Mais ça, il fallait le prévoir. Enfin, voilà. il fallait être visionnaire.
Les rentabilités qu'annonçait Arnaud sont quand même remarquables par rapport au marché financier aujourd'hui. 8 à 15%, c'est remarquable.
Donc Arnaud, le crowdfunding est plutôt favorable. Enfin, la crise a été favorable au crowdfunding et vice versa. Ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Alors, dans la mesure où on finance des opérations de construction ou des opérations de rénovation, si le marché se porte bien, il y a moins de risques pour les investisseurs puisqu'on est plutôt sur une tendance avec des prix qui montent. Donc c'est favorable. Après, comme on est dans un marché qui est encore tout petit, encore tout récent, on est sur un marché avec des volumes qui sont en croissance forte d'une année sur l'autre. J'ose même pas faire une comparaison avec la collecte du livret A ou de l'assurance vie. Hein, on est même pas à l'épaisseur du trait. Et donc oui, c'est, tant que le sous-jacent se porte bien, je dirais qu'on est très content de financer des projets qui se portent bien.
Oui, bien sûr. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été plutôt une opportunité en tout cas pour vous, cette crise. Alors l'un des plus grands défis du logement est aujourd'hui de répondre à de nouvelles normes environnementales, Norbert. Alors c'est vrai que les gens se posent aussi la question, est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans un logement neuf avec de nouvelles normes énergétiques, etc. Ou est-ce que finalement, c'est pas si intéressant que ça?
Ça dépend ce qu'on veut faire. On revient toujours à la même chose. C'est, et quel est son profil d'investissement? Pourquoi les prix explosent sur le logement neuf? Parce que, en fait, la demande est là. C'est ce que dit Arnaud d'une certaine façon. C'est aujourd'hui, on a des taux de crédit immobilier bas. Kenza, vous évoquez le terme de crise plusieurs fois. Alors, en France, on aime bien ce mot-là. Une crise économique, enfin une crise sanitaire en place.
J'ai aussi cité opportunité.
Voilà. Mais on a, comme on est dans cette logique un peu intellectuelle de crise ou d'émotion, l'immobilier rassure. Rassure parce que c'est une valeur refuge, c'est dans nos gènes, et parce que les rentabilités sont bonnes par rapport à d'autres investissements. Mmh. Et puis, c'est pas trop risqué. Donc, l'immobilier neuf a l'avantage, effectivement, quand vous achetez un appartement, ça répond à un tas de normes environnementales qui s'améliorent d'année en année. Donc, un autre phénomène dans notre inconscient, c'est qu'on oppose logement à écologie. C'est absolument faux. C'est que l'immobilier neuf est super écologique et super éco-responsable.
En même temps, est-ce que vous n'avez pas le choix? Je crois aujourd'hui, avec les normes, on est obligé d'aller vers des logements 100% écologiques.
Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais c'est très bien. Et c'est vrai, par contre, que ça va augmenter le prix d'achat.
Oui.
Par contre, ça va diminuer le prix de revient tout au long du bâtiment parce que votre eau chaude, elle va être chauffée par l'énergie solaire, parce que vous allez produire pas mal d'énergie renouvelable, inclure dans le bâtiment des énergies renouvelables. Mais c'est vrai que vous avez une meilleure rentabilité sur le logement ancien, très clairement, parce qu'il s'achète moins cher, et il se loue quasiment au même prix. Par contre, en termes de frais d'entretien, le neuf améliore la rentabilité. Donc, est-ce que vous avez un ticket d'entrée un peu moins élevé, vous avez intérêt à acheter de l'immobilier ancien? Par contre, vous allez devoir avoir affaire à des frais d'entretien importants et des frais de consommables importants, plus importants que dans le neuf. Ou est-ce que vous avez un ticket d'entrée un peu plus important? Et le neuf, c'est franchement mieux parce que vous avez 10 à 20 ans tranquille, sans réparation et avec des frais pour vos locataires qui sont quand même beaucoup moindres que dans les logements anciens.
Du côté du crowdfunding, est-ce qu'il arrive qu'on investisse de plus en plus dans des projets, on va dire, à vocation écologique, ou c'est une notion qui n'est pas très... très développé?
C'est pas encore une notion super développée, mais comme tout investisseur cherche un peu de sens aussi dans ses investissements, la vague verte pourrait bien toucher aussi les investissements en crowdfunding. Donc on voit effectivement dans des constructions neuves, de toute façon qui respectent la réglementation, donc qui sont au top du niveau de respect de l'écologie, etc. Donc la rénovation d'anciens actifs, c'est aussi quelque part repositionner l'actif dans son dans son marché et peut-être le faire respecter un peu mieux les normes d'isolation, etc. Donc c'est pas encore labellisé vert à ce stade. Il y a eu des initiatives. C'est un début, mais oui, on peut parier que ça va être un axe de développement assez important.
Oui, vous auriez envie d'évoquer ce genre d'axe,
hein, oui,
chez Upstone. Alors justement, quelles sont les principales différences entre le crowdfunding immobilier cette fois-ci et la SCPI? Ça, c'est une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs.
Alors, c'est deux choses complètement différentes, puisque la SCPI, ça revient à faire une acquisition long terme locative, oui, mais sur un petit morceau d'un gros fonds qui détient beaucoup d'immobilier. D'ailleurs, c'est généralement plutôt de l'immobilier commercial, donc oui, des bureaux, des commerces. À la marge, il y a des SCPI résidentielles. Investir dans des SCPI, c'est un investissement long terme, ce qui procure un rendement locatif, avec la fiscalité qui va avec, et avec la maturité qui va avec, puisque quand on fait de l'investissement locatif, comme l'évoquait Norbert tout à l'heure, c'est plutôt des investissements sur au moins 8-9 ans, pour amortir des frais, parce qu'il y a un endettement qui est souvent associé. Donc on est sur du locatif long terme, alors que le crowdfunding va financer, la phase amont, c'est plutôt la phase de construction et la phase de rénovation. Donc on est sur des durées beaucoup plus courtes. Mmh. On est sur des durées de... une opération de marchand de biens peut durer un jour à l'extrême jusqu'à 6 mois, 12 mois. Une opération de promotion, financement d'une opération de promotion, nous, on intervient au moment où on commence à construire. Donc, c'est plutôt sur une phase de 18-24 mois. Donc, on n'est pas du tout sur du long terme. Et en plus, ce n'est pas du revenu locatif. Mmh. C'est du
donc,
revenu de...
il y a une vraie
de...
différence entre les deux statuts. Hein,
voilà, c'est du revenu de capitaux mobiliers. Il n'y a pas la même fiscalité. Mmh.
Norbert, quels sont les éléments à savoir et les conditions à remplir pour profiter du dispositif MaPrimeRénov? Ça, c'est une question qui revient souvent.
Alors, c'est un dispositif... Dès qu'on fait de la fiscalité en France, ça devient technique. Alors, ça dépend de la performance énergétique de votre logement, de la performance que vous voulez atteindre et de vos revenus. Donc, en fait, il y a ces multicritères.
Oui.
Et vous avez un excellent simulateur qu'a mis en place le ministère de l'Écologie pour répondre à cette question-là, parce que c'est vraiment à multiples choix et je vais raconter des bêtises si je réponds directement à la question. C'est tout l'enjeu de la réhabilitation énergétique. Mmh. Aujourd'hui, c'est deux tiers de fonds propres, un tiers de financement privé. Et donc, oui, il est urgent que l'État aide les propriétaires privés à financer la rénovation énergétique des bâtiments. Je pense que ces dispositifs-là, on est au début. C'est toujours un peu lourd techniquement. Et je vous dis, le simulateur, il y a différents profils. J'espère qu'on va pouvoir simplifier la chose pour pouvoir massifier la part de l'État dans cet effort que vont faire les personnes privées. Soit les copropriétés, soit les propriétaires de maisons individuelles dans les années à venir.
Et clairement, il y a un vrai impact sur la facture. Hein.
Oui,
il y a
une vraie aide. C'est une vraie aide. Et il y a quelque chose qui passe un peu sous les radars. On parle beaucoup de la norme RE 2020 aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc applicable l'année prochaine. Il y a un truc qui s'appelle Fit for 55, donc qui est en train de monter l'Europe. Le truc, c'est vraiment c'est vulgaire de ma part, mais c'est réduire les émissions au niveau européen de 55% en 10 ans. La conséquence, c'est rénover 3% du parc de logements par an. Et donc, MaPrimeRénov, on n'en est qu'au début, et je pense que c'est la version bêta. On aura plusieurs versions dans
les années. Elle a été rallongée, d'ailleurs, hein, MaPrimeRénov, on est d'accord. Hein. Donc, on souhaite que ce soit rallongé encore plus pour que
Et simplifié, c'est toujours là.
Effectivement.
En France, on a la magie de faire des choses compliquées dès qu'on touche à la fiscalité.
Vous êtes d'accord, Arnaud ?
Complètement.
Alors justement, Arnaud, pour parler encore de crowdfunding, une question qui revient aussi souvent. Alors, les gens veulent toujours investir 1 000 euros. Genre, je ne sais pas pourquoi ils veulent peut-être commencer par 1 000 euros. Ils se disent que 1 000 euros, est-ce qu'il n'y a pas de risque ?
C'est un bon début.
Voilà. Donc, quelqu'un nous pose la question. Est-ce que investir 1 000 euros, en gros, quel placement va le plus me rapporter ? Est-ce que c'est la SCPI ou le crowdfunding ?
Il y a un îlot, c'est la crypto-monnaie.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a que ça.
Non, c'est vrai qu'on
n'en fait pas encore.
Oui, ça n'est pas encore, mais on peut gagner beaucoup et perdre beaucoup, a priori. D'après ce que j'ai compris.
Il faut surveiller surtout la courbe, non ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est une bonne question, mais ça pose une vraie question de stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de son argent et comment on fait son calcul ? Parce que sur le long terme, la SCPI va procurer du revenu, va peut-être avoir une revalorisation des prix de la part. Donc, il y a un côté un petit peu inconnu sur la performance totale, mais on est sur un placement qui est long terme et qui génère la rentabilité régulière. Les taux sont aussi, je crois que la rémunération moyenne des SCPI devait être aux alentours de 4,3 4,4% l'année dernière. Oui. Donc on a des taux qui sont facialement beaucoup plus bas que sur ce qu'on obtient en crowdfunding, mais sur des durées plus longues. Donc on n'est pas vraiment sur la même typologie d'investissement. Et on est surtout sur la récurrence du revenu. Donc, si on a besoin de préparer sa retraite, si on a besoin d'anticiper une baisse de revenu ou d'avoir des revenus plus tard, ça peut être intéressant. Alors que le crowdfunding, étant donné qu'il est beaucoup plus court avec des taux un peu plus élevés, donc il est forcément un peu plus risqué, je dirais qu'il convient mieux dans son portefeuille d'investissement à la poche un peu risquée, dynamique et court terme dont on n'a pas besoin tout de suite.
Norbert, si vous aviez 1 000 euros, vous feriez quoi, vous ? Vous les investissez dans du crowdfunding ou dans une SCPI ?
Il s'inscrirait sur Upstone.
C'est vrai.
Moi, je partirai en voyage. Tout, excusez-moi, je suis désolé, je commencerai par les consommer. Voilà.
Oui, Norbert y dépense.
C'est sûr.
C'est le deuxième 2000 euros, peut-être, que j'irai chez Upstone.
Donc, vous partez en voyage avant tout.
Je suis désolé.
Alors, Arnaud, justement, on a vu que les SCPI ont su se montrer résilientes en 2020, avec un taux de rendement relativement stable, autour des 4%. Est-ce que vous pensez que cette situation va durer ? Et surtout, est-ce qu'on ne va pas assister à une baisse des taux et des collectes ?
Alors, est-ce que la situation va durer ? On l'espère, parce que si les CPI ont un bon rendement locatif,
les gens s'inquiètent.
Ça veut dire que les locataires payent et donc l'économie va plutôt bien. Aujourd'hui, on n'a pas eu un effondrement du marché. On a toujours une activité qui est soutenue dans l'investissement. Comme disait Norbert tout à l'heure, on est toujours sur une prime de risque en immobilier qui est énorme par rapport au reste de l'investissement dans le monde. Donc, on est sur des produits qui sont quand même rentables. Donc, il y a toujours une forte appétence.
Ouais.
La contrainte, c'est que plus il y a d'appétence, plus ça peut faire monter les prix et plus ça peut faire baisser les rentabilités. Donc, il faut voir cette équation. Les rentabilités peuvent être susceptibles de baisser pour ce mécanisme, mais il ne faudrait pas qu'elles baissent parce que les locataires ne payent plus leur loyer ou sont dans l'incapacité de le payer. Donc, il y a deux phénomènes à observer et en tout cas à scruter. Je ne crois pas que les chiffres de la collecte sont plutôt bons. De mémoire, on a plutôt toujours une dynamique à l'investissement. Donc je vois pas forcément la collecte s'écrouler sans raison apparente.
Très bien.
Et les performances, j'ai peut-être dit ça la dernière fois aussi, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour appréhender l'après-Covid et la fin des aides et un ralentissement de l'économie. Donc soyons un peu vigilants.
Norbert, concernant la construction, est-ce qu'il d'abord il reste de la place pour construire dans les métropoles ou est-ce qu'il ne faut pas de plus en plus s'éloigner des centres-villes pour finalement se loger ? Parce que les gens se posent la question, est-ce que finalement plus on s'éloigne et moins on paye cher, ou finalement ça n'a plus rien à voir et tout a changé ? Il n'y a plus de normes.
Oui, là, mais c'est bien le problème. C'est qu'effectivement, on refuse la densité en ville aujourd'hui.
Oui.
Les dernières élections municipales l'ont démontré, et on éloigne les gens. Et on parlait d'écologie tout à l'heure, donc du coup, on aggrave le bilan carbone sur le déplacement. Parce que les gens prennent leur voiture.
Tout à fait.
Et les transports en commun sont très développés en Ile-de-France, mais la vie ne se concentre pas en Ile-de-France, malgré ce qu'on peut croire à Paris. Et donc le sujet, effectivement, pour moi, des années à venir, c'est de faire revenir les Français dans les centres-villes. Et on a bien vu l'année dernière, ce que les travailleurs essentiels, c'est des travailleurs qui ont des revenus pas très importants et qui ont besoin de se loger en centre-ville, parce qu'on a besoin, parce qu'ils travaillent là. Et c'est toute l'industrie du service et de la proximité. Mais pour ça, il faut accepter qu'on démolisse l'ancien. Qu'on démolisse l'ancien et qu'on construise du neuf plus haut. Et donc cet ancien qui, je prends le cas à Paris, dans les périphéries, à l'intérieur du périphérique, dans les arrondissements à deux chiffres, n'est pas de bonne qualité, donc énergétiquement et énergivore. Alors ça donne un cachet peut-être, mais si on construisait plus haut...
surélévation, vous voulez dire, c'est ça, des immeubles
Comme c'est des bâtiments de faible qualité, je pense que la surélévation, on va gagner un niveau.
Oui,
et le sujet, c'est d'en gagner 5, 10 pour recréer de l'espace au sol. On a besoin de replanter des arbres. Enfin, on le voit aujourd'hui, on a besoin d'avoir de la fraîcheur. On a besoin d'avoir des espaces privatifs généreux, et donc ça veut dire des balcons. Moi, je suis pour supprimer les sous-sols, parce que les sous-sols, c'est une aberration écologique la plus absolue.
Et où est-ce qu'on garde nos voitures?
On les met en R+1 et en rez-de-chaussée. Et donc, ça veut dire qu'on accepte aussi d'avoir des bâtiments plus hauts. Pour être clair, quand on terrasse, on consomme du CO2 pour terrasser. Il faut transporter la terre, il faut la traiter. Donc, écologiquement, c'est une vraie aberration. Donc, il faut, pour moi, réinventer les périphéries des métropoles. L'idée n'est pas de construire un R+25... au bord des principaux fleuves de France, où il y a tout le patrimoine architectural et culturel de nos métropoles. Mais il y a des endroits où on peut le faire. Il faut qu'on l'accepte collectivement. Et donc, effectivement, il faut arrêter d'éloigner les gens de leur lieu de travail.
Est-ce que l'arrivée du Covid et de cette crise vous permet aujourd'hui de réfléchir à construire différemment, voire de façon peut-être... est-ce que vos constructions de demain vont être différentes de celles d'aujourd'hui, en gros ?
Non, pas aujourd'hui. Demain, c'est...
En gros, la ville de demain, vous l'imaginez comment ? Comment est-ce que vous comptez la construire demain avec le groupe Gambetta ?
Si ça ne tenait qu'à moi, mais ça ne tient pas qu'à moi.
Mais c'est une question qui s'adresse à vous.
Non, ce que je veux dire, voilà, c'est construire... Nous, on construit des bouts de ville. On construit des bouts d'immeubles. Et on les construit avec les élus, les élus du moment, avec les habitants du quartier, avec les architectes. Donc on fait ça dans une temporalité. Aujourd'hui, construire un immeuble, c'est 6 à 7 ans. Il y a 10 ans, c'était 4-5 ans. Donc on voit que la concertation a quasiment doublé le temps de fabrication d'un immeuble. Donc la fabrication de la ville, c'est votre question Kenza, elle se fait au niveau de la municipalité, donc au niveau des élus. Et le temps d'absorption d'une crise comme le Covid, il ne se fait pas en un an. Aujourd'hui, on est encore dans l'émotion et aujourd'hui, les élus locaux, ils traitent
Les urgences,
l'accueil des enfants à la crèche, au camp de vacances. Et donc, l'idée de construire la ville de demain avec les élus, je pense que c'est pas avant, j'allais dire quelques années, oui, parce que je pense qu'on va rester dans l'émotion et malheureusement, ce qui se passe avec les variants n'est pas super rassurant.
On sera peut-être obligé de vivre avec et de voir le logement différemment.
C'est un peu ce que je pense. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on accepte de la hauteur pour dégager des espaces au sol et des espaces privatifs plus généreux en extérieur, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on est très contraint par les règles de construction.
Et dans le cadre de votre secteur d'activité, Arnaud, est-ce que vous percevez un attrait des Français concernant justement les investissements dans l'immobilier, que ce soit dans le locatif ou dans la pierre papier ? Est-ce que vous avez vu des changements d'investissement ?
Pas forcément des changements, mais plutôt des volumes croissants. Donc toujours une appétence pour la pierre, comme on évoquait tout à l'heure.
Les Français veulent toujours se loger, quel que soit...
Le Français aime bien investir dans la pierre. Voilà. On est comme ça, c'est vrai que c'est rassurant. Il y a un facteur d'utilité qui est indéniable en plus. Donc que ce soit le résidentiel dont on a a priori besoin, puisque contrairement au bureau, au commerce, dont on peut challenger un petit peu l'utilité parfois, on aura toujours besoin d'un toit pour se loger. Je veux pas dire qu'on n'a pas besoin de bureaux et de commerce, hein. c'est pas mon sujet, mais je dis parfois on s'est un peu posé la question ces derniers temps, mais on y revient quand même. Il y a une appétence pour l'investissement. On voit bien sur la collecte des SCPI, sur les volumes investis en crowdfunding qui sont en forte croissance. Ce dont on peut avoir à craindre, c'est le manque de matières premières, puisque comme le disait Norbert, on est sur des volumes qui sont un petit peu challengés ces derniers temps. Donc il faut pouvoir construire pour pouvoir absorber la demande.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent de la digitalisation de l'investissement ? Est-ce que c'est toujours très sûr ? Est-ce qu'on va à l'avenir investir que sur Internet et ne plus avoir affaire à des conseillers comme vous, aller voir les gens face à face ? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir à ce niveau-là ?
Alors je vois pas en quoi c'est un facteur inquiétant finalement
de pas voir la personne.
Puisque on voit bien
les gens sont toujours rassurés de voir un conseiller ou...
Je dirais qu'il y a plusieurs catégories d'investisseurs, mais on est devant des gens qui sont de plus en plus cultivés, qui ont de plus en plus d'informations, puisque Internet regorge
d'informations. Après, il faut faire le tri, effectivement.
Il faut savoir faire le tri. Mais donc, on arrive relativement bien préparé quand on va rencontrer quelqu'un qui veut nous proposer un investissement. Il y a un parallèle avec la médecine, où certains expliquent aux médecins ce qu'ils ont, puisqu'ils l'ont vu sur Internet. Effectivement, faut avoir un peu de recul et savoir faire le tri. Mais la digitalisation, je dirais que c'est la simplification aussi de l'investissement, puisque justement, à défaut de... On n'a pas forcément besoin de se déplacer physiquement, de prendre rendez-vous pour consulter quelque chose. On a accès à beaucoup d'informations, le parcours est fluide, ce qui n'empêche pas peut-être de parler à quelqu'un malgré tout, ou au téléphone ou en visio. Donc on ne perd pas forcément le rapport humain, mais on facilite l'investissement. Et comme on le facilite, on peut aussi baisser les tickets d'entrée et donner cet accès à l'investissement à plus de monde.
Norbert, j'imagine que c'est une vraie différence entre votre métier et le métier d'Arnaud. C'est qu'avec Arnaud, tout peut être digitalisé ou presque, mais avec vous, personne n'investit en VFA si on ne voit pas un conseiller, si on ne va pas voir sur place ce qui se passe.
Alors là, il y a une réévolution.
Ah oui, vraiment.
Que c'était ce que vous dites était vrai avant, avant février, avant mars 2020.
Ah, vous voyez comme quoi les choses évoluent.
Exactement.
Finalement.
Et le nombre de réservations s'est relativement bien tenu en 2020. Et donc les gens ont accepté de pas voir physiquement là où ils achetaient et les conseillers. Donc la digitalisation a quand même a été rapidement accélérée par le Covid. Moi, je ne suis pas... ne pas voir la personne physique, je pense qu'aujourd'hui, on a tous dépassé ce stade. Et effectivement, Internet regorge d'informations, ça permet de se rassurer.
Il y a même eu des achats en visio, en visioconférence, on est d'accord, avec des conseillers immobiliers, effectivement.
Ouais. Ce qui me gêne dans mon métier, mais je suis peut-être old school, c'est de ne pas voir le terrain. Et ça...
Oui.
Quoi qu'on dise, et la règle d'un investissement immobilier, c'est l'emplacement. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on le dit, 40 ans, 50 ans, ça fait rigoler quand on débarque dans le métier, mais c'est vraiment la base de la base, que ça soit en résidence principale, en investisseur. Donc, qu'on ne voit pas la personne physique, qu'on digitalise tout le processus de réservation, qu'on fasse sans visio, moi je trouve ça très bien, tout le monde gagne du temps et de l'efficacité, et on a tous une vie qui est de plus en plus nomade, et donc c'est... Et puis on achète, en général, on achète à deux, donc c'est compliqué de combiner les agendas. Par contre, allez voir physiquement le terrain.
Dernière question pour vous, à Arnaud. C'est une question d'ailleurs que j'ai choisie parce que ça revient aussi régulièrement. Pour finir, que conseillez-vous à un particulier, novice en la matière, qui souhaite se constituer finalement un patrimoine, même un tout petit pour commencer?
Je dirais qu'il faut commencer tôt.
Ah oui.
Il faut commencer tôt. J'explique toujours à mes élèves qu'il faut, faut rapidement investir avec des petits moyens pour vite se forger une culture de l'investissement, comprendre les cycles, savoir comment on gagne, comment on perd. Hein, parce qu'on peut, investir en bourse et, ou en crypto-monnaie, pour ne pas la citer.
Vous aimez bien.
J'en ai pas encore.
Vous avez gagné beaucoup d'argent, vous, cette année. Hein.
Ça ressemble à ça.
Vous nous parlez de vos investissements personnels.
Pas vendu, pas gagné. L'idée, c'est de se forger sa culture avec des petits moyens pour, si l'avenir est prometteur et qu'on gagne plus d'argent plus tard, de pouvoir investir avec une culture un peu renforcée, avec des plus gros moyens. Et puis investir dans la pierre, sur des cycles longs, on peut le commencer tôt. Il faut pas forcément attendre d'être prêt, et il faut savoir se lancer. Quoi.
Ben, j'ai envie de vous poser la même question, finalement, Norbert Franchon. Est-ce que aujourd'hui, pour investir, il faut investir jeune et commencer jeune pour investir, ou est-ce qu'il faut prendre son temps?
Non, même réponse Carnot, il faut investir le plus tôt possible. Et aujourd'hui, ce que l'on voit dans la jeune génération, c'est mon premier achat, c'était ma résidence principale.
Oui.
Aujourd'hui, la jeune génération investit d'abord en investisseur, et donc loue. Pas forcément là où ils habitent, dans une autre ville, parce que ils ont envie d'être super bien placés pour leur résidence principale, mais par contre, ils ont envie de faire un investissement dans l'immobilier parce qu'ils ont retenu la leçon. Grâce à Arnaud, certainement.
Oui.
Ils sont plus intelligents que moi. Et donc, c'est une part non négligeable des investisseurs Pinel pour se constituer un patrimoine, effectivement, avoir un revenu locatif. Et puis, au bout de 9 ans, vendre. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils achèteront leur résidence principale. Peut-être qu'ils auront aussi construit leur vie, ils sauront où ils vont s'installer, dans quelle ville, dans quel poste. Donc, et oui, il faut investir le plus tôt possible, mais je pense que les gens ont retenu la leçon et c'est le cas.
Bon, on va finir sur ces super conseils. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir
été
nos experts du jour. Norbert Franchon, président du directoire du groupe Gambetta, et Arnaud Romanet Pérou, fondateur d'Upstone et professeur de finances immobilières. Vous êtes partout, hein, vraiment. On peut vous souhaiter un bel été ?
Avec plaisir.
Vous partez où en vacances ?
En France.
Bon, et vous ?
J'espère partir plus loin, j'espère franchir l'Atlantique, mais on en parlera la prochaine fois qu'on verra.
Vous avez investi 1 000 euros, c'est ça ou pas?
Les billets sont remboursables.
Bon, vous souhaitez en tout cas un très bel été. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce numéro de Allo Radio Immo. On se retrouve très vite et on se retrouve à la rentrée.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. We'll be right back.